séance de Nicolas Frise à Radio Grenouille.
Maintenant, c'est l'expression libre et publique de la résidence du compositeur Nicolas Frise et nous nous y intéressons aux lettres, aux messages et aussi à ceux et celles qui les acheminent au postier et puis au-delà de la poste, au service public et puis encore au-delà de cette notion de service public qui est aujourd'hui bien d'actualité, une notion peut-être plus générale, plus globale qui pourrait s'intituler le bien commun. Notion si générale et si globale d'ailleurs qu'il convient peut-être un peu de la préciser. Pour nous y aider, Jean-Christophe Holl, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez la philosophie, je crois, à l'école d'art d'Aix-en-Provence. Eh bien, tout de suite, je vous propose d'aborder notre sujet, peut-être en esquissant une définition de cette notion de bien commun. Et je vous propose une première piste pour cela. Est-ce que c'est un patrimoine commun ?
La notion de bien commun, elle renvoie à l'idée de patrimoine, ne serait-ce que parce que la notion de bien est aussi une notion de propriété. Et donc, par le biais du patrimoine, elle renvoie à l'idée d'un héritage, d'un legs. Mais la notion de bien commun renvoie aussi à une idée morale, à une idée éthique. Le bien, c'est une finalité, c'est ce vers quoi on tend, en tout cas chez Aristote, par exemple. Le bien est la fin, c'est le but. Donc on est dans une notion double qui renvoie à la fois à une idée patrimoniale et à la fois à une idée éthique, si ce n'est morale, mais en tout cas éthique. C'est-à-dire qu'elle renvoie à des valeurs.
Et selon vous, ces deux définitions ne sont pas du tout en opposition ?
Le patrimoine, ce n'est jamais un fait simple et objectif. Le patrimoine, c'est une relation. C'est une relation entre les hommes et la nature, par exemple. C'est une relation entre les hommes et leur production. Et par-delà ça, c'est une relation entre les hommes et leur propre communauté. Donc la question du bien en tant que patrimoine, elle emporte avec elle aussi l'idée d'un rapport à la société et donc des valeurs, une conception de la totalité sociale. L'idée de bien commun porte ça. Et dans l'idée de bien commun, il y a l'idée du bien, mais il y a aussi l'idée du commun. C'est une idée qui renvoie à deux choses. D'une part, à ce qui n'appartient à personne, de fait. Par exemple, l'air, par exemple, l'eau, mais aussi le vivant, mais aussi le patrimoine génétique. Donc de ce point de vue-là, on est dans ce qui tend, ou jusqu'à présent, ce qui a échappé à l'emprise propriétaire. Mais la notion de bien commun renvoie aussi à une vision qu'on peut avoir de la société, à l'idée qu'il y a dans le commun quelque chose qui dépasse le rapport de l'individu à sa propre propriété. Et donc il y a dans l'idée du bien commun une visée qui est une visée collective, qui est une visée collective qui pose la question de la communauté. Sommes-nous en communauté ou ne sommes-nous pas en communauté ?
Patrimoine naturel donc, un élément essentiel, une première pierre de cette définition du bien commun. Vous l'avez évoqué, c'est d'abord l'air, l'eau, la vie. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire intervient, les activités humaines ravagent la planète, on pourrait dire, et cette notion de disponibilité du bien commun est aujourd'hui très très questionnée, très questionnable.
Il me semble qu'il y a deux choses différentes. Il y a le fait que l'industrie, d'abord, mais la société post-industrielle ensuite, est une société qui a asservi la nature et qui développe un processus de destruction du milieu naturel. Et que la question qui est posée est la question d'un équilibre ou de retrouver un rapport écologique à la nature. Mais en même temps, il y a une autre idée à cela, c'est que la prégnance de la propriété sur sur l'ensemble des objets ou le devenir marchand de l'ensemble des réalités est en train de s'étendre au-delà de ce qui avait été vu jusqu'à présent. Et qu'on assiste, par exemple, au fait que des entreprises tentent, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, à s'approprier d'une façon directe, par exemple par l'intermédiaire de brevets, de réalités qui étaient des réalités qui échappaient jusqu'à présent à l'idée de la propriété, par exemple le vivant. Ce sont deux choses différentes, parce que dans un cas, on a un processus qui est un processus de développement productif d'une société. Dans l'autre cas, on a l'extension du rapport marchand et de la rentabilisation du capital sur des valeurs qui ne sont pas seulement objectales, mais qui sont aussi intellectuelles. C'est-à-dire qu'on a le fait que la pensée est en train de devenir le lieu de la rentabilisation marchande. La pensée, la connaissance. Nous sommes donc dans une situation qui ne peut pas être réduite à une seule chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement la question du productivisme. Il y a aussi la question d'une société dans laquelle, par l'intermédiaire de la propriété intellectuelle, on essaie de s'assujettir à un certain nombre de données. C'est une propriété un petit peu différente. Je veux dire par là que quand des sociétés, par exemple agroalimentaires ou de biotechnologie, déposent des brevets ou tentent de déposer des brevets, par exemple sur le patrimoine génétique, ce qui est la propriété, ce n'est pas directement le gène, c'est la connaissance qui porte sur le gène. Et ce que font ces sociétés, c'est qu'elles sont en train, non pas de vendre un objet, par exemple, on ne vend pas du maïs génétiquement modifié en vendant des graines, véritablement, mais on loue ces graines, ou on donne la possibilité de l'accès à ces graines.
C'est ce qu'on appelle un marché captif ?
C'est un marché captif, mais c'est aussi un marché qui fonctionne à l'exclusion. C'est un marché qui fait que le paysan qui auparavant achetait des graines pouvait ensuite les replanter. Il était propriétaire de ces graines, y compris des produits de ces graines. Aujourd'hui, cette propriété est beaucoup plus indistincte, beaucoup moins claire, puisqu'un paysan qui achète une année des graines ne va pas pouvoir les replanter l'année d'après. Il est donc dans une situation de bénéficier momentanément du droit d'usage de graines dont en réalité il n'est jamais véritablement propriétaire. Il est donc directement asservi à la structure marchande qui développe une fonction monopolistique qui lui retire l'un des fondements de son existence en tant que paysan.
La pensée est bien commun, là vous venez d'évoquer une forme de la pensée qui tient plutôt de la recherche scientifique, mais en est-il de même à propos d'autres formes de création humaine, et notamment la création artistique? Vous êtes enseignant dans une école d'art, donc c'est sûrement quelque chose qui vous tient à cœur.
Il y a aujourd'hui un lien direct qui est en train de s'établir entre, d'une part, ce que l'on peut mettre sur le registre de l'invention, et d'autre part, ce que l'on peut mettre sur le registre, disons, de la découverte. Quand on parle d'un patrimoine génétique, on parle d'une réalité qui fait l'objet d'une découverte scientifique. Ce qui est l'objet d'un savoir, c'est le processus de la découverte d'une réalité indépendante qui, dans un sens, ne préexiste pas à l'homme. L'homme le porte, le patrimoine génétique, mais qui existait bien avant que l'homme le sache, en prenne conscience ou développe des connaissances. Dans le droit américain, cette opposition est très forte. Et c'est cette opposition qui a permis, par exemple, à des scientifiques de parvenir à faire échapper le séquençage du génome humain à cette appropriation privée. Il y a un article extrêmement intéressant qui a été publié par John Sulston, qui est prix Nobel de médecine en 2002, et qui, avec d'autres scientifiques, ont entrepris au fur et à mesure qu'ils procédaient au séquençage du génome humain de publier progressivement, au fur et à mesure qu'ils les faisaient, leurs découvertes, de manière à éviter que des entreprises puissent déposer des brevets. Certaines ont pu le faire sur des séquences ou sur des gènes, mais ils ont réussi à faire échapper le processus général du séquençage à cette appropriation privée. Ce qui leur a permis de faire ça, c'était aussi l'idée que cette connaissance était de l'ordre de la découverte et pas de l'invention. Mais en réalité, le biais par lequel s'effectue cette appropriation, qui est une appropriation de la connaissance, porte indistinctement sur la réalité de la découverte comme sur la réalité de l'invention. Mais cela pose une autre question, qui est la question des technologies numériques, de la façon dont, avec les technologies numériques, le partage du savoir ou la possibilité d'accès au savoir s'est complètement modifié.
Eh bien, on abordera cette question dans une prochaine émission, avec la suite de cet entretien avec Jean Christoffel, à propos du bien commun.
Maintenant.
Rejoignez-nous www.maintenant.org.